La RDC a produit depuis 2014 plus d'un million de tonnes de cuivre et cobalt, sans compter les autres minéraux. Cependant, la majorité de la population vivant dans les zones d'exploitation reste pauvre. C'est le résultat d'une étude publiée par l'ONG hollandaise Corden. Le conseil d'administration et la direction générale de la Cribank RDC sont dessaisis de leur pouvoir par la BCC et la gestion est confiée à un administrateur provisoire. Sa mission, présenter en 3 mois un plan de redressement pour corriger la crise dans cette banque. Toutefois, les clients n'ont rien à craindre pour leur situation. Le ministre provincial des Transports et Communications du Sud Kivu a suspendu la navigation du bateau à Konkwa sur le lac Kivu. La surcharge du bateau, l'insuffisance des gilets de sauvetage à bord et les mauvaises conditions sécuritaires des passagers sont les principales causes de cette suspension. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'ONG hollandaise Corded a présenté hier mardi le rapport d'une étude menée depuis septembre 2014 sur les industries extractives au Katanga. Objectif visé par cette étude, recueillir et comprendre la perception communautaire, le contexte social et politique ainsi que l'impact des industries extractives sur les communautés locales. Le condensé de ce rapport avec Daniel Tombinzoni.
Dans ce rapport intitulé « L'exploitation minière au cœur des zones rurales, quel développement pour les communautés locales ?» une attention particulière a été portée sur le genre. L'étude a été menée dans la perspective d'orienter les différents mécanismes de dialogue multipartite entrepris à travers la RDC. Pour ce faire, une enquête a été conduite dans 6 compagnies minières à Kolwezi et à Lubumbashi avec la participation de communautés riveraines de 12 villages. Le rapport révèle un paradoxe selon lequel la RDC a produit depuis 2014 plus d'1 million de tonnes de cuivre et de cobalt, sans compter les autres minéraux. Cependant, le défi majeur demeure la réduction de la pauvreté croissante et dont souffre la majorité de la population vivant aux alentours des zones d'exploitation. Plusieurs raisons expliquent cette situation, c'est entre autres des lacunes observées dans la réglementation sur les zones minières en RDC. L'enquête révèle aussi l'inexistence des standards définis pour préciser la nature et l'ampleur de l'engagement des entreprises dans le développement social. Conséquence, certaines entreprises affichent des politiques sociales encourageantes pendant que d'autres ne font rien du tout. S'agissant de l'exploitation industrielle, cette étude a identifié des impacts négatifs directs sur la population locale, c'est notamment la déforestation ainsi que la pollution de l'air. Quant à la redistribution de revenus provenant des ces mines, presque une grande partie des recettes va au gouvernement central alors que les besoins des populations locales ne sont pas pris en compte.
Toujours à Kinshasa, la Banque centrale du Congo a décidé de mettre sous gestion d'un administrateur provisoire la First International Bank RDC. Selon le communiqué de la Banque centrale daté du 11 décembre, le conseil d'administration et la direction générale de la Fribank RDC sont dessaisis de leur pouvoir de gestion. Et cette gestion est confiée à Alphonse Guy Ramazani, assisté de 4 autres personnes. Leur mission, assurer la gestion courante, servir d'interface avec toutes les parties prenantes de la Fribank et présenter en 3 mois un plan de redressement pour corriger la crise dans cette banque. Les clients n'ont rien à craindre pour leur situation, c'est l'assurance que donne Jean-Louis Kayembe, directeur général de la Banque centrale du Congo en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires. Il est interrogé par Daniel Tombinzoni.
Pour maintenir la stabilité du système au regard de certaines faiblesses qui ont été constatées dans les chefs de cette banque. La Banque centrale, donc l'autorité monétaire, a été obligée de nommer un administrateur provisoire. Comme vous l'avez dit, les missions essentielles qu'on a fixées à l'administrateur provisoire, c'est d'assurer la bonne gestion de l'établissement de la banque. Et également, comme vous l'avez dit, élaborer un plan de redressement de la banque.
Déjà, en 3 mois, si rien de bon n'arrive, si les redressements n'arrivent pas, qu'est-ce qui va arriver? Et pendant tout ce temps-là, est-ce que les déposants, les clients de cette banque, c'est quoi leur situation? Ils peuvent se calmer parce que la banque centrale surveille la situation. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là?
Donc pendant ce temps, tout est normal. Au niveau de la banque, je crois que la situation vis-à-vis de la clientèle, la situation, elle est bonne. D'ailleurs, depuis le 11 décembre, date à laquelle la décision a été prise, la gestion de la banque comment continue à être assurée normalement, d'avoir été renforcée, ce qui devrait rassurer encore plus la clientèle de la banque. Nous pensons que jusque-là, il y a rien qui est d'alarmant et qui peut porter un coup ou peut inquiéter les clients. Étant donné que nous sommes en train de surveiller la situation, ce qui a poussé la banque, comme je le disais, à prendre la gestion, c'est pour anticiper, à éviter que le pire n'arrive. Et donc, le problème essentiel qui a été reproché à cette banque, c'est en fait l'insuffisance de fonds propres. Donc, quand une banque n'a pas suffisamment de fonds propres, elle devient vulnérable. Et donc, en cas de choc, elle risque d'avoir des problèmes graves. Voilà pourquoi, pour être proactif, pour anticiper des situations qui peuvent être difficilement gérables, la Banque centrale a pris cette décision et nous pensons qu'elle devait s'arrêter au niveau de redressement. Ainsi donc, d'ailleurs, depuis que la décision a été prise, les actionnaires et les conseils d'administration s'emploient activement à aller rechercher des fonds pour venir injecter au sein de la banque. D'ailleurs, au moment où nous parlons, toute l'équipe est partie pour voir les groupes. En fait, l'Elfibank, c'est une banque qui est dans les... conforter la situation. Donc, n'allons pas très loin. C'est d'abord une action qui vise le redressement de la banque. Elle vise donc à améliorer la qualité de la situation financière de la banque. Mais pour du reste, c'est pour assurer les déposants, les clients, le retrait, le versement se font sans problème. Il n'y a donc pas lieu de paniquer ou de s'inquiéter par rapport à tous ceux qui ont des comptes auprès de cette banque-là.
Jean-Luc Ayimbe, merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
Écho d'économie. Dans la province du Olomami, le pont qui relie les territoires de Bukama au territoire de Kanyama et Kamina est menacé par les érosions. Ces érosions sont causées par les fortes pluies qui tombent dans la région. Le chef des services de transport du territoire de Bukama indique que la voie routière des parts et d'autre du pont est réduite de 20 à 5 mètres de longueur à cause de l'avancement du ravin. Conséquence, le gros camion y passe difficilement. Par semaine, en moyenne, 50 camions traversent le pont dans les deux sens. Pour l'autorité locale, cette situation risque d'avoir de graves conséquences sur le plan économique dans cette partie du Olomami. Kasongo Kioni, chef de service de transport de Bukama d'intérim, lance un SOS à sa hiérarchie pour la réhabilitation de la route. Il a été joint par Madeleine Waila.
Il y a des ravins avant d'entrer dans le pont. Les ravins, maintenant, risquent à intercaler le passage de la route vers le pont. On risque de compter encore d'autres accidents avant que l'on puisse terminer l'année. Ça a une conséquence sur le plan économique. Il y a les problèmes de camions. Pour ravitailler Kabongo, Kanyama, Kamina, Bujumaï, et que sais-je encore, il faut traverser par cette route. C'est une route nationale numéro 1. Les grands camions, en tout cas, sont exposés, comme les BMW, même les 6 roues. Le camion qui ravitaille Mujimaï, Lubumbashi, ce sont des grands camions qui passent à tout moment plus que le petit camion. D'ailleurs, le camion en question qui a commis l'accident, c'est en direction de Mujimaï. Il transportait des prêteurs de Lubumbashi, Mujimaï. Par semaine, on fait majorer même 50 camions, c'est là qui doit aller de Mujimaï et c'est là qui rentre de Mujimaï, Lubumbashi.
Toujours dans les secteurs de transport, les usagers de l'axe routier Bounia Komanda se plaignent de l'escroquerie dont ils sont l'objet au niveau du pont Ndoya qui s'est écroulé il y a quelques semaines à 63 km sud-ouest de Bounia. Des civils encadrés par des policiers exigent de l'argent à tout engin qui emprunte une dérivation créée à ces niveaux. Suivez le reportage de José Deschamps Menga qui est passé par là.
Cette déviation est juste un amas de troncs d'arbres jeté sur un cours d'eau de quelques mètres. Elle aurait été créée par des habitants du village avec le concours de voyageurs. Cette bonne initiative est ternie par un groupe d'hommes qui y a érigé une barrière sous l'œil bienveillant de quelques policiers qui portent des armes. Des voitures, des motos et des camions qui passent par là sont obligés de payer de l'argent. 500 ou 1000 francs pour les motos, 2000 francs pour les voitures et un peu plus pour les camions. Un simple calcul peut rapporter aux racketteurs 400 000 francs congolais, soit près de 450 dollars américains par jour. Cette situation énerve les conducteurs qui payent déjà des frais aux fournaires, soit à Lengabo à la sortie de Bounia, soit avant d'atteindre Komanda à 75 km de là. Le chef de chantier de l'office des routes qui répare ce pont depuis une semaine assure qu'il pourra être à nouveau opérationnel ce dimanche. Ce qui pourra du coup arrêter l'escroquerie dont se plaignent les voyageurs sur la nationale 27 entre Bounia et Komanda. De passage au pont Ndoya, José Deschartemenga, Radio Okapi.
Pendant ces temps, au sud Kivu, le ministre provincial des Transports et Communications vient de suspendre la navigation du bateau à Konkwa sur le lac Kivu, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Aussi, les capitaines du bateau et les chefs de poste doivent subir des sanctions administratives exemplaires. Jacques Rukeba, ministre provincial des Transports et Communications du sud Kivu, explique le fait qu'il a vécu lui-même. Il est au micro d'Emmanuel et la Meji Wakabedi.
Je réalisais qu'il y avait sur le manifeste 220 personnes, mais quand moi-même j'ai compté, c'était plus de 158 personnes. Et ça, on appelle embarquement irrégulier ou illicite. C'est condamnable. La deuxième des choses, c'est que sur les 220 ou 258, je n'ai trouvé que 27 gilets de sauvetage. C'est pratiquement inconcevable aujourd'hui où il y a des noyades à tout moment. Même les 27, je les trouvais dans le cave. Ce n'était pas disponible. Alors s'il arrivait quelque chose, il serait même difficile de recourir à ces gilets de sauvetage. La troisième des choses, depuis que le bateau Moulamba avait pris feu, on a recommandé au bateau d'avoir à l'air bord les instincteurs de catégorie ABC à même d'éteindre le feu et la motopompe. Je n'ai trouvé que 5 instincteurs de catégorie A qui ne sont pas en mesure d'éteindre le feu. C'est comme ça que j'ai mis le bateau au repos jusqu'à ce qu'il se mette en ordre et il doit être amendé. Par la même occasion, j'ai mis le capitaine comme mesure conservatoire. Je dis qu'on doit suspendre les chefs de poste.
En réaction, l'association des armateurs du lac Kivu indique que dès que un bateau a reçu l'autorisation de quitter le port par les services habilités, c'est qu'il est en ordre et remplit toutes les normes exigées pour la navigation. Voilà, c'était un plaisir de vous présenter ce magazine économique. Prenez rendez-vous pour un autre numéro demain à la même heure.